Chapitre 4 Béchou policier. Delry s'empoigna chacune des deux jeunes femmes au-dessous du coude et les redressa. « Mais du calme, nom d'un chien, rien à faire si vous flanchez comme ça à la première occasion. » Le vieux maître d'hôtel cheminait un peu en avant et à l'écart. Van Houben, qui avait pénétré d'autorité dans la cour ainsi que Béchou, souffla à l'oreille de celui-ci. « Eh, j'ai eu du flair. Ah, heureusement que nous sommes là. Attention, diamant, quittez pas d'Henrys de l'œil. » On traversa la cour aux larges pavés inégaux. Les murs des autres hôtels voisins, tout nus, sans fenêtres, l'abordaient à droite et à gauche. Au fond, la demeure, animée de hautes croisées, avait grande allure. On monta les 6 marches. Régine Aubry bégaya. Oh, si le vestibule a des dalles noires et blanches, je me trouve mal. Crebleu, protesta Denris. Le vestibule avait des dalles noires et blanches. Mais Denris pinça si rudement le bras de ses deux compagnes qu'elles tinrent bon sur leurs jambes qui vacillaient. « Mais sa perlade, bourgonna-t-il en riant, nous n'arrivons jamais à rien. »« Mais le tapis de l'escalier, marmotta Régine, c'est le même. »« Oui, c'est le même, gémit Arlette, et la même rampe. »« Eh bien, et puis après, dit Denris. »« Mais si nous reconnaissons le salon, l'essentiel est d'y aller. Je ne suppose pas que le comte... s'il est coupable, et grande envie de nous y conduire. Alors, il faut l'y forcer. Voyons, Arlette, du courage, et pas une syllabe, quoi qu'il advienne. » À ce moment, le comte Adrien de Mélamar vint au-devant de ses visiteurs et les introduisit dans une pièce du rez-de-chaussée, garnie de jolis meubles d'acajou du temps de Louis XVI, et qui devait lui servir de cabinet de travail. C'était un homme à cheveux grisonnants, de 45 ans peut-être, bien d'aplomb, de visage plutôt agréable et peu sympathique. Il avait dans le regard une expression un peu vague, distraite par moments et qui déconcertait. Il salua Régine, tressaillit légèrement à la vue d'Arlette, et tout de suite se montra courtois, mais d'une manière plutôt superficielle et par habitude de gentilhomme. Jean d'Henry se présenta et présenta ses compagnes, mais il n'ajouta pas un mot pour Béchou ni pour Van Houben. Celui-ci s'inclina un peu plus qu'il n'eût fallu et dit en affectant des airs gracieux, « Van Houben, le lapidaire !» Le Van Houben des diamants volés à l'opéra. Mon collaborateur, M. Béchou. » Le comte, bien qu'assez étonné de cet assemblage de visiteurs, ne fit aucune remarque. Il salua et attendit. Van Houben, les diamants de l'opéra, Béchou, on eût pu croire que tout cela n'avait aucune signification pour lui. Alors Denris, tout à fait maître de lui, sans aucun embarras, prit la parole. « Monsieur, dit-il, au hasard, fait bien les choses. Il se trouve en effet qu'aujourd'hui même, où je viens vous rendre un petit service, j'ai découvert, en feuilletant un ancien répertoire des personnes de qualité, que nous étions quelque peu cousins. Mon arrière-grand-mère maternelle, née de Sourdin, avait épousé un Mélamar de la branche cadette des Mélamar Saint-Onge. » La physionomie du comte s'éclaira. Visiblement, ces questions de généalogie l'intéressaient, et il poursuivit avec Jean d'Henrys un dialogue serré, à la suite de quoi leur parenté fut solidement établie. Arlette et Régine se remettaient peu à peu. Van Houben dit tout bas à Béchou. Alors quoi, il serait allié au Mélamar ? Comme moi au pape, grogna Béchou. En ce cas, alors il a un rude culot, Oh, c'est le début. Cependant, Denris repartait de plus en plus désinvolte. Mais j'abuse de votre patience, monsieur et cher cousin, et si vous le permettez, je vous dirai tout de suite en quoi le hasard m'a servi. Je vous en prie, monsieur. Le hasard m'a servi une première fois en me mettant sous les yeux, dans le métro, un matin, votre annonce du journal. J'avoue qu'elle me frappa sur le champ par la composition même et l'insignifiance des objets que vous réclamiez. Un bout de ruban bleu, une entrée de serrure, une bobèche, le pommeau d'une pincette, ce sont des choses qui ne méritent peut-être pas un communiqué aux journaux. Quelques minutes après, d'ailleurs, je n'y pensais plus et sans doute n'y aurais-je jamais plus songé si, après un instant d'habile suspension, Jean continua. Vous connaissez évidemment, mon cher cousin, le marché aux puces, cette foire pittoresque où s'accumulent les objets les plus hétéroclites dans le désordre le plus amusant. Pour ma part, j'y ai trouvé souvent de bien jolies choses. Et jamais, en tout cas, je n'ai regretté les promenades que j'y ai faites. Ce matin-là, par exemple, je dénichais un bénitier de faïence en vieux Rouen, cassé, rapiécé, raccommodé, mais d'un style charmant. Une soupière, un dé à coudre, bref, une série d'aubaines. Et tout à coup, sur le pavé du trottoir, au milieu d'un tas d'ustensiles sans valeur jetés là en pagaille, voilà que mon regard accroche un bout de ruban. Oui, mon cher cousin, un bout de ruban de sonnette en soie bleue, usé de couleur éteinte. Et à côté, une entrée de serrure, une bobèche d'argent. L'attitude de monsieur de Mellamare s'était soudain transformée. Vivement, avec une agitation extrême, il s'écria: Ces objets, est-ce possible? Mais exactement ce que je réclame. Mais où m'adresser, monsieur? Comment les avoir? En me les demandant, tout simplement. Hein? Vous les avez achetés? Quel prix? Oh, je vous rembourserai le double, triple, mais je tiens. Denerys l'apaisa. Mais laissez-moi vous les offrir, mon cher cousin. J'ai eu le tout pour 13,50 francs. Ils sont chez vous? Oh non, ils sont ici même, dans ma poche. Je viens de passer les prendre chez moi. Le comte Adrien tendit la main sans vergogne. Une seconde, dit Jean d'Ennery gaiement. Ben, je désire une petite récompense, oh, bien minime. Mais je suis curieux, oh, excessivement curieux de nature. Et je voudrais voir l'emplacement qu'occupaient ces objets. Et aussi, pourquoi vous y tenez tant? Le comte hésita. La demande était indiscrète, éprouvait quelque méfiance, mais combien cette hésitation de sa part était significative. À la fin, cependant, il répliqua: C'est facile, monsieur, veuillez me suivre au premier étage, dans le salon. Denerys jeta un coup d'œil aux deux jeunes femmes pour leur dire: Vous voyez, on arrive toujours à ce qu'on veut. Mais les ayant observées, il remarqua le bouleversement de leurs traits. Le salon, pour elles, c'était le lieu même de l'épreuve qu'elles avaient subie. Y retourner, c'était acquérir la redoutable certitude. Van Houben également avait compris. Une nouvelle étape allait être franchie. Le brigadier Béchoux, de son côté, s'animait. Il emboîta le pas au comte. Excusez-moi, dit celui-ci, je vous montre le chemin. Ils sortirent et traversèrent le vestibule d'allée. L'écho sonore des pas remplit la cage de l'escalier. En montant, Régine comptait les marches. Il y en avait 25. 25, exactement le même nombre. Oh, il eut encore une défaillance plus sérieuse et chancela. Tout le monde s'empressa autour d'elle. Que se passait-il? Elle était souffrante? Non, non, chuchota Régine, sans ouvrir les yeux, non, non, un simple étourdissement. Pardonnez-moi. Il faut vous asseoir, madame, dit le comte en poussant la porte du salon. Van Houben et Denris l'installèrent sur un canapé. Mais quand Arlette entra et qu'elle vit la pièce, elle poussa un cri, tournoya et tomba évanouie sur un fauteuil. Alors, ce fut un affolement, un tumulte quelque peu comique. On tournait à droite et à gauche au hasard. Le comte appelait Gilbert, Gertrude, vite, des sels, de l'éther. François, appelez Gertrude. François arriva le premier. C'était le concierge, le maître d'hôtel et sans doute le seul domestique avec sa femme Gertrude, aussi vieille que lui et plus ridée encore. Elle le suivit de près, puis entra la personne que le comte nommait Gilberte, et à qui jeta vivement: Ma sœur, voici deux jeunes dames qui se trouvent indisposées. Gilbert de Mellanoir, divorcé, elle avait repris son nom de famille, était grande, brune, altière, avec un visage jaune et régulier, mais avec quelque chose d'un peu démodé dans la mise et dans la tournure. Elle avait plus de douceur que son frère. Ses yeux noirs, très beaux, montraient une expression grave. Denris nota qu'elle portait des bandes de velours noir à sa robe prune. Bien que la scène dût lui sembler inexplicable, elle garda tout son sang-froid. Ayant bassiné d'eau de Cologne le front d'Arlette, elle chargea Gertrude de la soigner, puis s'approcha de Régine, autour de laquelle Van Houben s'évertuait vivement. Jean d'Ennery s'écarta Van Houben afin d'observer de près l'événement qu'il prévoyait. Gilberte de Mellamare s'inclina et dit: Et vous, madame, ça ne doit pas être bien sérieux, n'est-ce pas? Qu'éprouvez-vous? Elle fit sentir un flacon de sel à Régine. Celle-ci souleva ses paupières, regarda cette dame, regarda sa robe prune à bandes de velours noir, puis ses mains, et se dressa tout à coup en criant avec une terreur indicible: La bague, les trois perles! Oh, ne me touchez pas! Vous êtes la femme de l'autre nuit. Oui, c'est vous. Je reconnais votre bague. Je reconnais votre main. Et aussi ce salon. Ces meubles en soie bleue, le parquet, la cheminée, la tapisserie, le tabouret d'acajou. Oh, laissez-moi, ne me touchez pas. Elle balbutia encore quelques mots indistincts, chancela comme la première fois et de nouveau s'évanouit. Et Arlette, qui s'éveillait à son tour, reconnaissant les souliers pointus aperçus dans l'auto et entendant sonner la pendule au tintement aigrelet, gémissait: Oh, cette sonnerie, mais c'est la même, et c'est la même femme, quelle horreur! La stupeur fut telle que personne ne bougea. La scène prenait une allure de vaudeville qui eût suscité le rire d'un témoin indifférent, et de fait les lèvres minces de Jean d'Ennery se plissèrent légèrement. Il s'amusait. Van Houben interrogeait tour à tour d'Ennery et Béchoux pour savoir que penser. Béchoux épiait attentivement le frère et la sœur qui demeuraient interdits. Mais que signifient ces paroles? Murmura le comte. De quelle bague s'agit-il? Je suppose que cette dame a le délire. Alors Denry s'intervint, et il le fit aussi allègrement que s'il n'attachait à tous ces événements aucune importance. Bon, mon cher cousin, vous avez dit le mot juste. L'émoi de mes deux amis a quelque rapport avec ces sortes de fièvres injustifiées qui ne vont pas sans un soupçon de délire. Cela fait partie des explications que je vous dois et que je vous ai annoncées en venant ici. Voulez-vous m'accorder quelques nouveaux délais et régler tout de suite cette petite question des objets recueillis par moi. » Le comte Adrien ne répondit pas sur le champ. Il montrait un embarras mêlé d'une inquiétude visible, murmurant des phrases inachevées. « Mais à quoi cela rime-t-il et que devons-nous supposer ? J'imagine difficilement. » Il prit sa sœur à part et ils causèrent tous deux avec animation. Mais Jean s'avança vers lui, tenant entre le pouce et l'index une petite plaque de cuivre ouvragé, représentant deux papillons aux ailes déployées. Bien voici l'entrée de serrure, mon cher cousin. Oh, je suppose que c'est bien celle qui manque à l'un des tiroirs de ce secrétaire. Elle est identique aux deux autres. De lui-même, il appliqua le morceau de cuivre qui retrouva sa place et dont les pointes de la face interne s'installèrent tout naturellement dans leurs anciens trous. Ensuite de quoi, Jean d'Enneris tira de sa poche un ruban bleu auquel s'accrochait une poignée de sonnettes également en cuivre, et comme on apercevait le long de la cheminée un autre ruban qui pendait, déchiqueté par le bas et de même couleur, il s'approcha. Les deux extrémités coïncidaient exactement. « Bien, tout va bien, dit-il. Et cette bobèche, mon cher cousin, où la mettons-nous ? À cette girandole, monsieur, dit le comte d'Adrien d'un ton bourru, il y en avait six. Comme vous voyez, il n'y en a plus que cinq, dont celle-ci ne diffère en rien. Reste le pommeau de ses pincettes, qui fut dévissé, comme vous pouvez vous en assurer. Ah, le voici, dit Jean, lequel, comme un prestidigitateur, continuait de tout extraire de sa poche inépuisable. Et maintenant, mon cher cousin, vous voudrez bien tenir votre promesse, n'est-ce pas ? Et nous dire pourquoi ces babioles vous ont si cher et pourquoi elles n'étaient pas à leur place habituelle. Ces diverses opérations avaient donné au comte le loisir de se reprendre et il semblait avoir oublié les imprécations de Régine et les gémissements d'Arlette, car il répondit en termes brefs et comme pour se débarrasser de l'intrus qui lui avait soutiré cette promesse inopportune. Ben, je suis attaché à tout ce qui me fut légué par les miens, et les moindres babioles, comme vous dites, nous serons à ma sœur et à moi, aussi sacrés que les objets les plus rares. L'explication valait ce qu'elle valait. Jean d'Enneris reprit. Oh, mais que vous y teniez, mon cher cousin, c'est fort légitime, et je sais trop par moi-même comment on s'attache aux souvenirs de famille. Mais pourquoi ont-elles disparu ? Ben, je l'ignore, dit le comte. Un matin, j'ai constaté que cette bobèche manquait. J'ai fait une inspection minutieuse avec ma sœur. L'entrée de serrure manquait aussi, et une partie de ce ruban et le pommeau de ses pincettes. Un vol, alors ? Un vol, sûrement, effectué d'un seul coup. Comment ? On pouvait prendre ces bonbonnières, ces miniatures, cette pendule et cette argenterie, toutes choses de valeur, et l'on a choisi ce qu'il y avait de plus insignifiant. Pourquoi ? Ben, je l'ignore, monsieur. Et le comte répéta ces mots d'un ton sec. Ces questions l'excédaient, et la visite pour lui n'avait plus de but. Peut-être cependant, fit Jean, désirez-vous, mon cher cousin, que je vous explique les raisons pour lesquelles je me suis permis d'amener ici mes deux amies et les raisons de l'émotion manifestée par elles ? Non, déclara nettement le comte Adrien, cela ne me concerne pas. Il avait hâte d'en finir et il esquissa un mouvement vers la porte. Mais il trouva en face de lui Béchou, qui s'était avancé, et qui lui dit gravement « Oh, cela vous concerne, monsieur le comte. Certaines questions doivent être éclaircies sur l'heure, et elles le seront. » Oh, l'intervention de Béchou était impérieuse. Le brigadier barrait la porte de ses longs bras étendus. Mais qui êtes-vous, monsieur? S'écria le comte avec hauteur. Le brigadier Béchoux, les services de la sûreté. Monsieur de Mélamar bondit sur place. Un policier, vous? Mais de quel droit vous êtes-vous introduit chez moi? Un policier ici, dans l'hôtel Mélamar? Mais je vous ai été présenté sous mon nom de Béchoux dès mon arrivée, monsieur le comte. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu m'oblige à faire précéder ce nom de mon grade de brigadier. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, balbutia monsieur de Mélamar, dont le visage se décomposait de plus en plus. Mais en vérité, monsieur, je ne vous autorise pas. Oh! « Ça, c'est le cadet de mes soucis, » gronda Béchoux, qui ne se piquait pas de politesse. Le comte revint vers sa sœur et ils eurent de nouveau un dialogue véhément et rapide. Gilbert de Mélamar montrait autant d'agitation que son frère. Debout, se soutenant l'un l'autre, ils attendaient dans l'attitude combative de gens qui sentent l'importance de l'attaque. « Voilà Béchoux déchaîné !» dit tout bas Van Houden à Jean. « Je le voyais qu'il s'excitait de plus en plus. Je connais mon bonhomme. Il commence par rejamber et par se boucher les yeux, et puis, tout à coup, il éclate. » Arlette et Régine s'étaient levées aussi et se tenaient en arrière sous la protection de Jean. Et Béchoux prononça. « Oh, ce ne sera pas long d'ailleurs, monsieur le comte. Quelques questions auxquelles je vous prie de répondre sans détour. À quelle heure êtes-vous sorti de chez vous hier? Et madame de Mélamar ?» Le comte haussa les épaules et ne répliqua pas. Sa sœur, plus souple, jugea préférable de répondre. « Oh, nous sommes sortis, mon frère et moi, à 2 heures. » et rentrez à 4h30 pour prendre le thé. Et après, oh, nous n'avons pas bougé, nous ne sortons jamais le soir. Cela, c'est une autre question, dit Béchoux avec ironie. Ce que je voudrais savoir, c'est l'emploi de votre temps ici, dans cette pièce, hier, entre 8h et midi. Monsieur de Mélamar frappa du pied avec rage et enjoignit à sa sœur de se taire. Béchoux comprit qu'aucune force au monde ne les obligerait à parler, et cela le mit dans une telle fureur que, emporté par sa conviction, il lâcha toute l'accusation, sans plus interroger, d'une voix contenue d'abord, puis âpre, dure, frémissante. « Monsieur le comte, vous n'étiez pas chez vous hier, dans l'après-midi, ni madame votre sœur, mais devant le numéro 3 bis de la rue du Mont-Abor. En tant que docteur Bricout, vous attendiez une jeune fille que vous avez prise au piège dans votre automobile, dont votre sœur a enveloppé la tête d'une couverture, et que vous avez amenée ici, dans votre hôtel. Cette jeune fille s'est enfuie, vous avez couru après, sans pouvoir la rattraper dans les rues. Et la voici. » Le comte martela les lèvres crispées, les poings serrés. « Mais vous êtes fou, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces fous-là ?»« Je ne suis pas fou, » proféra le policier, qui glissait peu à peu au mélodrame et à une grande éloquence, dont les termes pompeux et vulgaires réjouissaient d'Henris. « Je ne dis que l'exacte vérité. Des preuves, j'en ai plein les poches. Mademoiselle Arlette Mazol, que vous connaissez, que vous attendiez à la porte du couturier Chernitz, peut vous servir de témoin. Elle est montée sur votre cheminée, elle s'est étendue sur cette bibliothèque, elle a renversé cette potiche, elle a ouvert cette fenêtre, elle a traversé ce jardin, elle le jure sur la tête de sa mère. N'est-ce pas, Arlette Mazol, que vous le jurez sur la tête de votre chère mère ? Denris dit à l'oreille de Van Houben, « Mais il perd la boule, mais de quel droit fait-il le juge d'instruction ? Et quel juge pitoyable, il n'y a que lui qui parle. Oh, quand je dis qu'il parle, mes choux hurlaient. En effet, face à face avec le comte, dont les yeux hagards exprimaient un désarroi sans bornes. Mais ce n'est pas tout, monsieur, ce n'est pas tout, ce n'est même rien, il y a autre chose. Cette dame, il désignait Régine Aubry, vous la connaissez, hein? C'est celle qui a été enlevée un soir à l'opéra, et par qui? Hein? Qu'est-ce qui l'a conduite ici, dans ce salon, dont elle reconnaît les meubles, n'est-ce pas, madame? Ces fauteuils, ce tabouret, ce parquet? Hein, monsieur, qui l'a amené ici? Qui l'a dépouillé du corselet de diamants? Le comte de Mellamare, n'est-ce pas? Et sa sœur, Gilbert de Mellamare. La preuve? Mais cette bague aux trois perles. Mais les preuves, il y en a trop. Le parquet décidera, monsieur. Et mes chefs. Il n'acheva pas. Le comte de Mellamare, hors de lui, l'avait serré à la gorge et trépignait en bégayant des insultes. Béchou se dégagea, lui montra le poing et recommença encore son réquisitoire insolite. Entraîné par l'évidence des faits, par le rôle qu'il jouait dans l'affaire et surtout par l'importance que lui donnerait ce rôle auprès de ses chefs et auprès du public, il avait perdu la boule, comme le disait Denris. Il se sentit si bien qu'il s'arrêta net, essuya son front perlé de sueur, et soudain, redevenu maître de lui, très digne, articula: Oh, je dépasse mes droits, je l'avoue. Ceci n'est pas de ma compétence, et je téléphone à la préfecture de police. Vous voudrez bien attendre les instructions que je vais recevoir. Le comte s'effondra et prit sa tête entre ses mains, comme un homme qui ne tente même plus de se défendre. Mais Gilbert de Mellamare barra le passage au brigadier. Elle le suffoquait. La police va venir ici, dans cet hôtel. Mais non, voyons, c'est pas possible. Il y a de ces événements. Vous n'avez pas le droit. C'est un crime. Je suis désolé, madame, dit Béchou, que sa victoire rendait subitement polie. Mais elle se cramponnait au bras du policier et l'implorait. Je vous en supplie, monsieur. Mon frère et moi, nous sommes victimes d'un malentendu affreux. Mon frère est incapable d'une mauvaise action. Je vous en prie. Béchou fut inflexible. Il avait vu l'appareil dans l'antichambre. Il y alla, téléphona et revint. Les choses ne traînèrent pas. Au bout d'une demi-heure, durant laquelle Béchou, de plus en plus excité, pérora devant Denris et Van Houben, tandis que Régine et Arlette considéraient le frère et la sœur avec un effroi mêlé de compassion, le chef de la sûreté arriva, accompagné d'agents, et bientôt suivi d'un juge d'instruction, d'un greffier et du procureur. La communication de Béchou avait produit de l'effet. Une enquête sommaire eut lieu. On interrogea le couple de vieux domestiques. Ils habitaient une aile à l'écart et ne s'occupaient que de leur service. Leur service fini, ils se retiraient dans leur chambre ou dans la cuisine qui donnait sur la façade du jardin. Mais la déposition des deux jeunes femmes fut accablante. Il leur suffit pour cela d'évoquer simplement leurs souvenirs. Arlette en particulier montra le chemin qu'elle avait pris pour s'enfuir et décrivit, avant même de les revoir, le jardin, les arbustes, le mur, le pavillon isolé, la porte, la rue déserte donnant sur une rue plus animée. Aucun doute ne pouvait subsister. D'ailleurs, il se produisit une découverte dont Béchou eut tout l'honneur et qui ne laissait pas la moindre place pour la plus petite hésitation. En inspectant d'un coup d'œil l'intérieur de la bibliothèque, Béchou remarqua une série de vieux in-quarto dans leurs vieilles reliures. Ils lui parurent suspects. Un à un, il les examina. Ils étaient vides de pages et formaient des boîtes. L'un d'eux contenait une étoffe d'argent, un autre, le corselet. Hérégine s'exclama aussitôt. Oh, ma tunique, mon corselet! Et les diamants n'y sont plus, vociféra Van Houben, aussi bouleversé que si on avait volé une seconde fois. Mes diamants, qu'est-ce que vous en avez fait, monsieur? Ah, mais vous rendrez gorge! Le comte de Mélamare avait assisté à cette scène impassible, mais avec une expression étrange. Lorsque le juge se retourna vers lui en montrant la tunique et le corselet d'où les diamants avaient été arrachés, il hocha la tête et sa bouche se contracta par un sourire affreux. « Ma sœur n'est donc pas là ?» chuchota-t-il en regardant autour de lui. La vieille bonne répondit « Oh, je crois que madame est dans sa chambre. » « Bien, vous lui direz adieu de ma part et lui conseillerez de suivre mon exemple. » Et vivement, il tira un revolver de sa poche, le dirigea vers sa tempe et appuya sur la détente. D'un geste brusque, Denris, qui veillait, lui poussa le coude. La balle déviée alla briser une des vitres de la fenêtre. Des agents se jetèrent sur M. de Mélamare. Le juge d'instruction prononça « Vous êtes sous mandat d'arrêt, monsieur. Qu'on emmène aussi madame de Mélamare. » Mais quand on chercha la comtesse, on ne la trouva ni dans sa chambre ni dans son boudoir. On fouilla tout l'hôtel, mais par où s'était-elle enfuie et avec quelle complicité ? Delleris, très inquiet, redoutant un suicide, dirigeait les investigations. Elles furent vaines. N'importe, murmura Béchou, vous n'êtes pas loin de recueillir vos diamants, monsieur Van Houben. Notre situation est bonne. Oh, j'ai bien travaillé. Bon, Jean Denris aussi, avouons-le, observa Van Houben. Oh, il a manqué d'audace à mi-chemin, répliqua Béchou. C'est mon accusation qui a tout déclenché. Quelques heures plus tard, Van Houben rentrait dans son magnifique appartement du boulevard Haussmann. Il avait dîné au restaurant avec le brigadier Béchou et le ramenait pour parler encore de l'affaire qui les préoccupait autant l'un que l'autre. « Tiens, tiens, » dit-il après un moment de conversation, « pourquoi aurait-on entendu du bruit au bout de l'appartement ?» Les domestiques ne bougent pourtant pas de ce côté. Il suivit, ainsi que Béchou, un long corridor, à l'extrémité duquel se trouvait un petit logement ayant sa sortie particulière sur le grand escalier. « Deux chambres tout à fait séparées, dit-il, où je reçois quelquefois des amis. » Béchou prêta l'oreille. Oh, « En effet, il y a du monde. » « C'est curieux, personne n'a la clé. » Revolver au poing, ils entrèrent d'un bond. Et tout de suite, Van Houben poussa un cri. « Nom de Dieu !» auquel Béchou répondit par un autre cri. « Cré bon sang !» À genoux, devant une femme étendue sur un canapé, Jean Denris lui embrassait légèrement, selon sa méthode apaisante, le haut du front et les cheveux. Ils s'avancèrent et reconnurent Gilberte de Mélamare, les yeux clos, très pâles et la poitrine haletante. Denris, furieux, se planta devant les nouveaux venus. « Encore vous, mes sacres bleus, on peut donc pas être tranquille. Qu'est-ce que vous venez ficher ici, tous les deux ?»« Mais comment est-ce que nous venons faire ?» s'écria Van Houben. « Mais je suis chez moi, ici !» Et Béchou, indigné, préférait. « Oh, bien, mais t'as de l'aplomb. Alors c'est toi qui as fait évader la comtesse de l'hôtel ?» Denris, subitement apaisé, pirouetta sur lui-même. « On peut rien te cacher, Béchou. Mon Dieu, oui, c'est moi. »« Mais tu as osé ?»« Dame, cher ami, t'avais oublié de mettre des agents dans le jardin. Alors je l'ai fait filer par là, en lui donnant rendez-vous dans une rue voisine, où elle prit une auto. La cérémonie de l'instruction terminée, je l'y retrouvais, et depuis ce temps, après l'avoir transportée ici, je la soigne. Mais qui vous a fait entrer? Sapristi, dit Van Houben. Il fallait la clé de ce logement. Pas besoin, avec des pinces, j'ouvre toutes les portes en rigolant. Voilà plusieurs fois que je visite ainsi votre demeure, cher ami. Et je pensais qu'il n'y avait pas de meilleure retraite pour Madame de Mélamar que ce coin isolé. Qui donc imaginerait que Van Houben ait pu recueillir la comtesse de Mélamar? Personne, pas même Béchou. Elle va vivre là, très tranquillement, sous votre protection, jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. La femme de chambre qui la servira croira que c'est votre nouvelle amie, puisque Régine est perdue pour vous. « Je l'arrête, je préviens la police !» s'écria Béchou. Dennery s'éclata de rire. « Ah, ça, c'est drôle. Voyons, tu sais aussi bien que moi que tu n'y toucheras pas. Elle est sacrée. » « Tu crois ça, toi? Mais parbleu, puisque je la protège !» Béchou était exaspéré. « Alors tu protèges une voleuse ?»« Une voleuse, mais qu'est-ce que t'en sais ?» Mais comment la sœur de l'homme que tu as fait arrêter? Calomnie odieuse! C'est pas moi qui l'ai fait arrêter, c'est toi, Béchou! Assure ton indication, et parce qu'il est coupable, sans contestation possible. Qu'en sais-tu? Alors voilà que tu en es plus certain? Ma foi, non, dit Jean Denerys. D'un ton de persiflage horripilant. Il y a dans tout cela des choses rudement déconcertantes. Un voleur, ce noble personnage? Une voleuse, cette dame si fière, dont je n'ose guère embrasser que les cheveux? Ouais, mais chou, je me demande si tu n'as pas été un peu vite, et si tu ne t'es pas jeté imprudemment dans une bien mauvaise affaire. Quelle responsabilité, mes chou! Béchou écoutait, vacillant et blême. Van Houben, le cœur étreint par l'inquiétude, sentait ses diamants se perdre de nouveau dans l'ombre. Jean Denerys, agenouillé respectueusement devant la comtesse, chuchotait. « Vous n'êtes pas coupable, n'est-ce pas? Il est inadmissible qu'une femme comme vous ait volé. Promettez-moi de me dire la vérité. » Au sujet de votre frère et de vous.